Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Armel Maignan
sur notre radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh les filles. Pour fêter ça, parce que oui, pourquoi pas, je vous propose de revenir un peu en arrière, en fin d'année 2018, au moment des 10 ans de l'autre radio, avec Christine Pau. Christine qui est chroniqueuse dans la cultissime émission L'ennui et au lit, que l'on ne présente plus ici à l'autre radio, avec ses chroniques féministes, féminines, engagées et détonnantes. Ce n'est d'ailleurs pas un... mais deux trophées qu'elle a raflés pendant les Antennes d'Or, et c'est assez rare pour le souligner. Salut Christine.
Salut, merci pour cette présentation, très gentille.
Comment vas-tu?
Très bien, je suis en vacances, donc ça va.
Donc tout va bien,
il fait beau. Donc tout va bien, exactement.
C'est le printemps. Première question, comment vis-tu depuis que tu as gagné ces deux trophées? Qu'est-ce que ça te fait?
Ça a tout changé dans ma vie.
Ouais.
Non, j'y pense plus, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait fait très plaisir, surtout que ça faisait pas longtemps que j'avais commencé la radio.
La gloire, la célébrité.
C'est vrai que les gens m'arrêtent un petit peu dans la rue.
La reconnaissance d'un talent.
Enfin, j'ai envie de dire. Il était temps, depuis le temps que je tentais plein de choses pour être reconnue.
Et donc, alors, c'est quoi ces deux trophées, les dénominations exactes?
Alors, c'est la meilleure chronique, je pense, meilleure chroniqueuse. Même si sur le trophée il est marqué l'autre chroniqueur, on n'est pas encore à l'écriture inclusive à l'autre radio, mais ça va venir, je pense.
On va parler de tout ça.
Et l'autre, c'est la meilleure émission, je crois, avec l'antenne d'or, l'ennui au lit. Enfin là, je suis vraiment qu'une toute petite pièce de la machine, la seule pièce féminine.
Voilà. Ouais, mais justement.
Ouais, je pense que c'est grâce à ça peut-être qu'ils ont gagné.
Et
ouais.
C'est pas rien, hein.
Non.
C'est pas rien. Est-ce que tu peux te présenter pour les rares auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore?
Oui. Alors donc, Christine Pau, je suis professeure d'histoire-géographie à Laval. Voilà, ça c'est pour ma vie professionnelle. Je suis aussi militante syndicale, voilà, dans une grande partie de ma vie aussi. Je fais un petit peu de théâtre également. J'ai deux enfants et j'ai 44 ans. Enfin, pas encore, dans un mois, j'aurai 44 ans.
Et tu fais aussi de la radio.
Et je fais aussi de la radio, voilà.
Donc une vie bien chargée,
oui,
bien remplie.
Oui.
Et comment tu as eu envie de faire de la radio?
Alors ça, c'est une envie que j'avais depuis très longtemps, en fait, depuis toute petite. J'adore écouter la radio, je trouve que c'est un média super. Après, effectivement, je n'avais pas forcément le temps. Et puis, quand on m'a proposé l'ennui au lit, je me suis rendu compte que le temps, ça se trouve quand on est motivé. Et finalement, j'ai fait une première émission, j'ai trouvé ça super. Après, j'ai eu contact avec Bernard qui m'a proposé de faire des chroniques dans Autrement dit. Et j'ai adoré l'exercice et je me rends compte que oui, le temps, on le trouve en fait. Hein. Voilà.
Et quand est-ce que tu es arrivée dans l'émission? Comment tu en as eu connaissance? Est-ce que tu as passé un casting, un entretien d'embauche?
Non, je crois que c'est François Hillan, présentateur de L'ennui au lit, qui a donné mes coordonnées à Bernard, qui cherchait des chroniqueurs et des chroniqueuses. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que...
Et tu officies depuis...
Ça doit être depuis septembre, je pense, à peu près, depuis la rentrée. Ouais, la rentrée dernière.
Et par rapport à Autrement dit, qu'est-ce que tu fais en fait dans cette...
J'essaye de faire une chronique toutes les semaines. J'ai été assidue, je crois que j'ai dû rater que une ou deux semaines, mais sinon j'essaye de faire des chroniques. Au début j'étais sur l'actualité, puis je me suis rendu compte que c'était pas simple quand même d'être toujours de coller à l'actualité, parce que ça demande un gros travail, parce qu'on peut pas dire n'importe quoi quand même à la radio. Donc du coup je me suis un peu plus orientée sur, on va dire, je sais pas, des chroniques d'humeur, un peu plus vie quotidienne, mais j'essaye toujours d'axer effectivement un peu sur le féminisme pour faire entendre une voix comme ça sur l'autre radio, même si c'est pas la seule, bien sûr.
Parce que dans L'ennui et au lit, tes chroniques, elles sont aussi axées sur cette thématique-là. Elles sont assez engagées, féministes.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je suis dans une émission 100% avec des hommes et que donc je trouvais que c'était intéressant de faire entendre un autre point de vue et puis de les pousser un peu dans leur retranchement, parce que c'est vrai que la blague misogyne, c'est toujours la blague facile. Et donc le fait que je sois là, même si j'ai déjà eu droit à une fois ou deux à Christine fera la vaisselle à la fin de l'émission, mais je pense que
c'est pas vrai.
Si, mais je pense que c'était bon enfant, hein. Je le prends pas mal. Après, on peut rire de tout, ça dépend avec qui, je crois. Donc avec eux, je me sens suffisamment en confiance. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas laisser une émission 100% masculine. Voilà.
J'allais justement y venir. Tu es la seule femme de cette joyeuse bande. Et déjà, pour ça, bravo. Et attention, question hyper cliché, du coup.
Ouais.
Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est dur d'être dans cette émission masculine?
Non, ce qui était dur, c'est de faire une émission avec plein de gens que je ne connaissais pas. Voilà, parce qu'ils sont nombreux, donc il faut à la fois faire entendre sa voix, puis en même temps, pas essayer de prendre toute la lumière. Il faut comprendre les personnalités, ce qui se joue entre eux, etc. Donc, sur la première émission, ouais, j'étais un peu intimidée. Parce que je connaissais que Monsieur Ilan, je crois, dans toute cette bande-là. Donc voilà, c'est plus ça qui est compliqué, mais je pense que ça aurait été la même chose avec des filles. Moi, j'ai pas fait de différence. Le fait que ce soit que des garçons, ça ne me posait pas de problème. C'était plus le fait d'arriver dans une émission où je ne connaissais personne. Voilà, c'était
et
ça.
Et alors, c'est quoi ton pseudo dans cette émission?
Parce c'est Madame Christine.
D'accord, donc c'est quand même le Madame.
Oui, car il n'y a que des messieurs. Et donc, une Madame maintenant.
Une Madame.
Ouais.
Et par rapport à la préparation de tes chroniques, comment tu t'organises pour trouver des sujets, pour écrire ces chroniques?
Généralement, c'est la panique du lundi soir de qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme sujet. Donc parfois, je demande à mes collègues, parfois je demande à mes amis, parfois je demande à mes enfants qu'est-ce que je pourrais faire. Donc parfois, voilà, ça c'est un poil compliqué. Et puis une fois que j'ai l'idée, je la rédige, on va dire, le mardi soir, voilà, puisque j'enregistre le mercredi avec Bernard. Donc voilà, généralement, c'est un petit peu toujours sur le fil. J'anticipe pas forcément.
D'accord. Tu t'inspires un peu de l'actualité,
oui,
de ton quotidien.
Voilà.
Écoute, je te propose d'écouter une de tes chroniques justement sur la contraception masculine.
Ok.
Attention, vaste programme et on en reparle après.
Ok. Christine Pau. Bonjour. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis en plein ascenseur émotionnel. En effet, il y a une semaine, j'avais peur d'être virée à l'instar de Frédéric Becbédé. Et hier, j'ai appris que j'étais nominée pour les Antennes d'Or de l'Autre Radio. Pour moi qui n'ai jamais gagné un prix de ma vie, c'est un peu comme un aboutissement. Bon, Bernard, j'imagine que pour toi, c'est la routine. Mais pour moi, c'est une sorte de Graal. J'avais rêvé du Goncourt, mais les Antennes d'Or, ça a quand même de la gueule et c'est sûrement moins truqué. Bon, en même temps, j'exagère un peu parce que j'ai gagné le premier prix de Sarthe d'orgue électronique quand j'avais 13 ans, avec Les Feuilles Mortes, mais je préfère rester discrète sur cette passion d'adolescence. Bref, venons-en aux faits et à ma chronique. J'ai écouté hier un podcast de France Culture, ah oui, je suis prof quand même, qui abordait la question de la contraception masculine. En effet, savez-vous que dans 97% des couples hétérosexuels, ce sont les femmes qui endossent cette charge? Même si je ne suis pas bonne en maths, j'en déduis que nous avons un petit problème d'égalité là aussi. Tout ça m'a donné envie de vous raconter le parcours contraceptif d'une femme. Alors commençons par le début. Quand on est une jeune fille, on va au plus simple. On prend la pilule parce qu'on ne connaît que ça. On a 16, 18 ou 20 ans et pour les moins chanceuses, au bout de quelques mois, comme dirait une célèbre collègue évronaise de Miami, qui c'est qui se prend 5 kilos dans la gueule pour pas en prendre 20? Ah oui, c'est nous. Si l'on est dans une relation... non stable, pas trop le choix, on utilise le préservatif. Et on a le droit au classique. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sensations, j'aime pas trop ça. Certes, sans blague. Merci mon garçon, je l'avais jamais entendu celle-là. Alors si tu n'as plus envie de repasser par la case pilule, tu peux choisir parmi la douzaine de moyens de contraception féminins existants. Nous, c'est vrai, on a le choix. En vrac, le gel spermicide, très sympa, très glamour, une très très jolie entrée en matière. Ou alors le préservatif féminin, ce qui équivaut à se mettre une sorte de mini parachute type sac poubelle dans le vagin, et ça c'est encore plus glamour. Bon, reste encore le patch, le diaphragme, les injections. Bon, alors du coup, parfois la fille craque. Pff, tant pis, après tout, ce serait vraiment pas de chance de tomber enceinte, on va faire attention comme on dit. Ouais. Et comme faire attention, ça reste très relatif, tu testes la pharmacie de garde le dimanche matin pour obtenir la pilule du lendemain. Tu n'es pas hyper à l'aise selon que le pharmacien en face de toi est soit très professionnel, soit libidineux, soit carrément désapprobateur. Alors parfois, c'est vrai, ça te coûte, tu es feignante, tu n'y vas pas. Et bing, un mois après, tu te rends compte qu'il y a une petite croix bleue sur ton test de grossesse. Alors c'est parti, tu vas vivre ta première IVG. Le garçon, il ne vient pas forcément avec toi à l'hôpital. Ouais, il a un rendez-vous de boulot, il ne se sent pas vraiment concerné. On peut même s'entendre dire « bon, ouais, ça va, hein, y en a d'autres qui y sont passés avant toi ». Oui, c'est sûr. Il y a aussi des femmes qu'on marie de force ou qu'on excise. Alors, c'est quand même un peu gonflé de ne pas partir guillerette subir ton aspiration. Arrête de faire ta chochotte, hein, t'en verras d'autres. Allez, avançons un peu dans la vie d'une femme. Vous abordez la trentaine, c'est l'heure d'avoir un enfant. C'est la seule période bénie où tu n'as pas besoin de te prendre la tête, ça repose. Enfin, c'est aussi la période où tu te tapes les rendez-vous réguliers chez le gynécologue. Et ça, croyez-moi, si vous êtes un homme, vous ne savez pas ce que c'est. Les étriers, c'est devenu une routine depuis que tu as 16 ans, c'est pas pire que le dentiste, tu es aguerri et tu arrives presque à conserver ta dignité. Oui, mais le à quatre pattes pour subir un toucher vaginal, ça, on ne l'avait jamais fait. J'ai toujours pas bien compris pourquoi un gynécologue de garde m'avait fait subir ça, parce que quand j'en parle autour de moi, si ça peut vous rassurer, ça semble avoir été un traitement très personnel. Alors avant l'accouchement, on t'insère une très grosse et très longue aiguille dans le dos. Donc en gros, tu souffres parce que tu as fait le choix de ne pas souffrir pendant l'accouchement. Ensuite, bah, il te faudra surmonter le baby blues et l'allaitement, hein, parce qu'on t'a fait croire que c'est hyper important pour ton enfant. Toi, t'as l'impression qu'on te découpe les seins à la lame de rasoir. Mais bon, eh oh, ça va, hein, y en a d'autres qui y sont passés avant toi. Quelques mois passent et il va falloir que tu retrouves un moyen de contraception. Youpi! On t'a dit, ça va être chouette, tu vas pouvoir maintenant mettre un stérilet. Et ça, c'est formidable. Bon, peut-être que j'ai pas de chance, mais moi, j'ai pas trouvé ça super du tout. Je vous passe les détails. Mais sachez que vos hormones, ça fait 15 ans que vous les malmenez et elles vont vous faire payer une addition salée. Comme si être mère de famille ne suffisait pas. Bon, soupire le médecin, bah, on va essayer l'implant. Et là, tu vois bien hein, dans ses yeux qu'il commence à te trouver hyper casse-couille comme fille quand même. Ah bah super, j'ai jamais essayé encore celui-là. Alors, je pars avec mon ordonnance et je me retrouve face à une pharmacienne catastrophée. Oh là là, ah non, mais l'implant, on a des très mauvais retours. Hein. Problème de libido et puis regard de haut en bas. Et puis, vous pouvez vraiment prendre beaucoup de poids. Hein. Attention. Bon, on en est là. Alors, pour conclure sur une note plus positive, ne vous méprenez pas. Évidemment, c'est génial la contraception. Et malgré toutes ces galères, on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Et si des jeunes filles m'écoutent, d'ailleurs, je leur dis qu'évidemment, il faut se protéger et s'offrir la possibilité d'une sexualité sans risque parce que ça en vaut la peine. Pour autant, messieurs, à quel moment on parle de la contraception masculine? La recherche peut-elle cesser d'être très flémarde, comme par hasard, sur ce champ d'études? Et si enfin la contraception hormonale masculine, qui existe déjà, hein, mais qui reste très confidentielle, se démocratisait, combien serez-vous à accepter de la prendre? Et arrivé à un certain âge, pourrait-on très simplement parler de vasectomie? En Nouvelle-Zélande, c'est la routine. Mais en France, seulement 0,02% des hommes acceptent cet acte médical, qui ne diminue en rien la virilité et la capacité d'érection, je précise. Est-ce qu'on va payer encore longtemps le fait d'être né avec un vagin? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une pause avant justement d'endurer les joies de la ménopause? La semaine prochaine, si ça vous intéresse, je vous parlerai des règles, des mycoses et des cystites. Et donc, déjeuner plutôt vers 11h30.
Une bien belle chronique criante de vérité. Qui donne peut-être envie aux hommes de se tourner vers cette contraception masculine, hein, petit peu d'égalité homme-femme.
Ça ferait pas de mal.
En 2019, ça ferait pas de mal, effectivement. Oui. Avis aux hommes, allez vous renseigner dans les pharmacies, sur Internet et auprès de Christine qui
tout
pourra vous renseigner.
La spécialiste.
Et justement, toi, de manière générale, quel est ton avis sur la place des femmes aujourd'hui dans la société et aussi dans les médias
Alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet encore de débat. J'ai eu une discussion encore il y a 2 jours avec un autre chroniqueur de l'autre radio sur le thème de la prostitution. Et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans la tête de beaucoup d'hommes. Parce que pour beaucoup d'hommes, ils se disent « Bah attends, là, tout va bien. On est en France. Vous gagnez bien votre vie, etc. » Sauf que les inégalités salariales, elles existent toujours. Elles sont assez sournoises parce que ça peut être sur le mi-temps imposé, le temps partiel, le fait que ce sont les hommes qui ont les promotions, sont les hommes qui s'emparent des responsabilités parce que les femmes, mine de rien, dans le foyer, encore pour beaucoup d'entre elles, assument quand même beaucoup de la part. Et on ne parle que de l'Occident, évidemment, la question des femmes, si on parle à l'échelle du monde entier, elle est encore catastrophique pour énormément de femmes.
C'est ça, on parle de l'égalité homme-femme, mais voilà, il faut bien savoir qu'il y a deux vitesses entre l'Europe et le reste du monde aussi. C'est tout aussi important, mais c'est pas les mêmes les mêmes problèmes, les mêmes engagements. Ton engagement, toi, qui est la cause féminine, le féminisme. C'est aussi quelque chose que tu portes dans ta vie perso, à travers tes autres activités.
Oui, j'essaye. Alors déjà professionnellement, j'essaye toujours d'avoir un discours face à mes élèves, de les recadrer, parce que ce sont souvent des adolescents. Donc pour s'insérer dans le groupe, ils ont souvent besoin d'avoir un discours, parfois un peu misogyne, voire homophobe. Et donc ça, je me fais fort, je m'en fiche que ce soit au programme ou non, de toujours replacer le sujet, recadrer, les mettre face à leurs contradictions. Dans ma vie personnelle, oui, j'essaye dans la mesure du possible d'assumer mes idées, de les mettre en acte. Et j'essaye aussi, et c'est pas toujours simple, de le faire dans l'éducation de mes enfants. Et on se rend compte que parfois, nous-mêmes, on a des réflexes un peu sexistes dans la manière d'élever un enfant, un garçon, une fille. On a beau avoir plein d'idées, mais parfois on se rend compte qu'il y a encore du travail, y compris dans notre propre tête. Donc ça, j'essaye, parce que je me dis que de toute façon, c'est la seule solution, c'est que les petits garçons d'aujourd'hui deviennent des hommes qui considèrent les femmes comme leur égales, et que les jeunes filles, les petites filles, deviennent plus tard des femmes qui se sentent absolument libres de faire ce qu'elles veulent.
Donc, il y a des choses qui restent ancrées et qui, malheureusement, sont un petit peu inconscientes.
Oui.
Et en même temps, aujourd'hui, avec MeToo et avec d'autres réflexions, d'autres mouvements, il y a aussi tout un bouleversement qui fait que ça commence un petit peu, à bouger et qui pourrait laisser espérer pour les générations à venir un changement et un peu plus d'inclusion.
Je pense que ça avance, j'y pensais en venant. Je pensais que moi, quand j'étais petite, par exemple, je disais toujours, je veux être un papa. Plus tard, je veux être un papa. Parce que je pense que pour moi, ça voulait dire justement être libre, pouvoir s'assumer, etc. Et je me dis que quand même, il y a du progrès. C'est qu'aujourd'hui, je vois ma fille qui a 8 ans. Je crois qu'elle a compris qu'elle peut être libre en étant une fille, qu'elle n'a pas besoin de vouloir être un garçon pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc je me dis, là, en ce sens, on a avancé. En revanche, elle m'a demandé ce qu'était un garçon manqué, parce que je pense qu'on lui a dit qu'elle était un garçon manqué. Parce que justement, comme elle refuse des stéréotypes féminin, je pense que déjà on lui renvoie le fait que c'est pas une vraie fille. Donc elle a avancé, donc ça c'est positif, j'en suis très fière, mais tout le monde n'a pas avancé autour.
Elle se pose des questions que nous on se posait pas forcément.
Exactement. Ouais.
Et tu ressens ça auprès de tes élèves ou de tes enfants, qu'il y a un questionnement, il y a une avancée qui se fait
Il y a deux écoles. Alors j'ai des jeunes filles en face de moi que je trouve très libres, donc ça je trouve ça formidable. Et puis j'ai aussi des jeunes filles qui m'expliquent qu'elles trouvent ça très bien d'être une fille, de rester à la maison, de s'occuper des enfants, parce que moi je travaille dans un quartier très populaire, et je pense que pour un certain nombre d'entre elles, elles ont intégré le fait que ce sera compliqué d'entrer sur le marché du travail. Et je pense que pour elles, c'est une planche de salut que de se dire qu'au moins elles seront des mères et qu'elles réussiront leur vie de famille. Alors il y a vraiment deux écoles de gamines en face de moi. Je suis assez déroutée par des filles de 15 ans qui me tiennent ce discours-là, et assez rassurée de voir qu'il y en a quand même, y compris dans des milieux populaires, y compris dans des familles où je pense que c'est pas simple, qui arrivent à avoir un discours féministe. Donc ça c'est bien.
Oui, il y a toute une partie en fait qui a un petit peu lâché l'affaire, un petit peu parce que c'est ce qu'on leur a inculqué, et puis d'autres qui essayent de se lever un peu contre ça, et il faudrait que ça fasse qu'un...
On est dans une époque ambivalente, parce qu'à la fois, il y a un vrai retour réactionnaire, on le voit au moment du mariage pour tous, enfin, quand même, les voix qui se sont exprimées, c'était effrayant, et puis à côté de ça, il y a MeToo. Alors c'est vrai qu'on est toujours dans un balancier, ceci dit, je suis quand même inquiète, parce que même si les mentalités avancent, je me dis qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'un retour de la réaction. Enfin, la série The Handmaid's Tale, je trouvais qu'à cet égard, elle était formidable, parce qu'on se dit, c'est pas complètement improbable.
Et pour toi, c'est aussi le rôle de l'éducation au sens large, et le rôle de la culture de faire bouger les choses, d'où est-ce que ça peut...
Ah oui,
revenir.
Oui, je pense.
En dehors de de la famille.
Je pense que l'ouverture culturelle, elle est évidemment fondamentale. Aller se confronter à des discours auxquels on n'est pas habitué. Je pense que évidemment c'est un facteur d'émancipation. Enfin, c'est pas que des mots. Quand on dit que la culture, c'est toujours le premier budget sacrifié. Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est dangereux, la culture, pour plein de gens. Parce que justement, ça ouvre la tête, ça amène. Enfin, moi, j'ai pas les mêmes idées aujourd'hui que j'avais à 15 ans. Et c'est évidemment entre autres la culture qui m'ont fait arriver à ça, les bouquins que j'ai pu lire, les émissions que j'ai pu entendre. Enfin, oui, c'est fondamental.
Alors, accès à la culture, peu importe son âge, son milieu social, ses centres d'intérêt.
Oui.
Et puis avoir des références, avoir des inspirations aussi qui nous font évoluer, nous font changer.
Oui.
Toi, par rapport à, évidemment, à la petite fille que tu étais et la femme que tu es aujourd'hui, ça a évolué au niveau de tes inspirations. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ou des femmes qui t'ont inspiré plus jeune et qui ont fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui?
Ah, j'ai toujours été admirative des femmes fortes, ça c'est certain. Bon, je pense au premier titre, ma mère, qui a eu un parcours de vie de femme forte, et donc ça c'était une source évidemment d'inspiration. Après, je vais pas être très originale, hein, mais des femmes comme Beauvoir ou je sais pas Edmond de Charleroux ou Gisèle Halimi, enfin voilà, des femmes qui se sont un peu dressées contre le machisme ambiant, qui ont enfin tracé leur parcours de femme sans prendre en compte ce qu'on pouvait dire d'elles ou penser d'elles. Ça, j'ai toujours admiré beaucoup ces femmes-là. J'ai toujours admiré les femmes qui étaient contraintes à élever seules leurs enfants. Les femmes fortes, ça m'a toujours fascinée.
Dans l'émission, dans l'ennui au lit, dans ton travail que tu fais au quotidien, est-ce que, de manière inconsciente, tu ressens aussi cette espèce cette deuxième vitesse un petit peu vis-à-vis des femmes? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont pas ancrées, qui pourraient changer?
Quand je suis sur l'autre radio ou dans l'émission avec les garçons, là, non. Sincèrement, j'ai la sensation que... voilà, ils me prennent à leur égal. Bon, ils me font des petites blagues misogynes. Bon, ça, voilà, ça reste encore des blagues qui font rire. Là-dessus, j'ai assez d'humour. Je pense qu'on peut être féministe et et avoir de l'humour aussi sur sa condition de femme. Moi, ça me pose pas de problème. Voilà, l'humour misogyne peut me faire rire parfois. Non, je me sens pas. Je me sens tout à fait à l'égal des garçons avec qui je travaille. Ouais. Et c'est pareil dans le monde professionnel. Enfin, je n'ai aucune. Voilà, mais bon, en même temps, j'affirme haut et fort ce que je pense. Et bon, je ne suis pas souvent embêtée parce que je pense que les gens savent aussi que j'ai un certain caractère et qu'il ne faut pas trop venir me chercher sur le sujet aussi.
Et c'est ça la vraie inclusion finalement, c'est de... Parce qu'on entend beaucoup, alors vous êtes une femme, dans un milieu d'hommes, comme ça. Et tant qu'on posera cette question, tant qu'on abordera ce sujet-là, c'est que cette inclusion, cette égalité homme-femme, elle ne sera pas acquise.
Oui.
Et la vraie chance, c'est justement... d'être dans un milieu d'hommes ou dans un milieu de femmes et qu'on soit traité de manière égale. Mais quand même, j'ai un petit peu envie d'aller sur ce terrain-là, titiller.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous balancer un petit peu 2-3 scoops sur tes petits camarades, un petit peu pour se venger de toutes ces blagues misogynes?
Pour me venger d'eux. Hein. Alors, je ne les connais pas encore tous très, très bien. J'ai perçu un certain nombre de défauts. Par exemple, M. Ladoff ne peut pas s'arrêter de parler. Hein. Par exemple, ça, c'est un truc, c'est une sorte de tic qu'il a. Il faut toujours qu'il parle. Voilà, je peux balancer qu'il y a un millionnaire parmi l'équipe de l'ennui au lit, mais je ne dirai pas de qui il s'agit. Je laisse les gens deviner. Je crois que le plus gros scoop, c'est que là-dedans, à peu près personne ne travaille, hein, je dirais, à part moi. je crois que je suis la seule à préparer mes chroniques. Et M. Ladoff, qui prépare son quiz, dont il est très fier, me dit « mais je passe des heures à préparer ce quiz ». Bon, je ne sais pas comment il fait pour y passer des heures. Voilà. M. Kaya, a une chanson toutes les quatre émissions. M. Ilan, arrive avec un papier blanc et donc il demande le nom de l'invité et puis il fait ça un petit peu à l'arrache. Il s'en sort pas si mal, finalement. Il doit avoir du talent. Monsieur Blancpain, je ne l'ai pas beaucoup vu. Alors lui, il travaille, mais il n'est pas là. Voilà, ça c'est un autre problème. qu'est-ce que je pourrais dire? Je dois oublier. Qui est-ce que j'oublie? Bon, il y en a quand même un qui fait une chronique en lisant une page Wikipédia. Donc ça, c'est pareil. C'est quand même complètement improbable.
En tant que prof, c'est d'un petit peu de chiffonner.
Le travail au dernier moment. Je pense que c'est des gens qui, s'y travaillaient, pourraient être brillants. Ah si, je suis méchante. Monsieur Le Prêtre travaille énormément ses chroniques. Elles sont très bien écrites. Et là, on sent qu'il y a du boulot. Quoi. Lui, il prend pas ça par-dessus la jambe. Mais je crois que c'est à peu près le seul. Et Monsieur Hich, je sais pas, j'ai pas encore entendu trop le son de sa voix depuis 5 émissions, donc je sais pas. Ils vont me détester du portrait que je suis en train de faire. Je vais pas leur dire que j'ai enregistré cette émission.
Finalement, une femme dans cette émission, ça ne peut qu'être bénéfique.
Mais tout à fait.
Et puis, on n'est pas dans les clichés.
Non.
Masculin, donc c'est ça qui est bien. Si jamais il y a un souci, la brigade de haut les filles, elle peut débarquer à tout moment. Donc
merci.
Tu nous appelles.
Je suis rassurée.
On débarque. pour revenir un petit peu à tes activités aussi, je crois D'ailleurs, c'est un petit peu une taupe de votre radio qui m'a balancé cette info, on ne dira pas qui. Que tu as sorti un livre récemment.
Alors récemment, ça doit faire presque 2 ans, je crois.
Ah oui, quand même. Donc j'ai des infos, mais pas forcément.
Ouais. Parce que je l'ai avoué très récemment à l'équipe de l'ennui au lycée pour ça. Ils n'étaient pas au courant. Je l'ai dit. D'ailleurs, je pense pas qu'ils m'aient lu, hein, d'ailleurs. Mais oui, effectivement. Alors sorti un livre, j'ai publié un livre en auto-édition, comme on dit. Voilà, que j'ai dû vendre à un peu plus de 200 exemplaires, c'est-à-dire mes amis, ma famille.
Ah
voilà.
Quand même. Hein. Une grande famille.
Une grande famille. Et quelques personnes que je connais pas quand même, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'avais eu plutôt des bons retours, mais je ne m'y suis pas remise encore. Mais ça, c'est ma grande passion, l'écriture. Oui. C'est pour ça que j'aime bien aussi la radio, c'est qu'avant tout, j'aime bien écrire. Donc voilà, ça c'était... C'est pas simple de sortir un livre, hein, parce qu'on se met vraiment un peu à poil devant les gens quand même, donc ça n'a pas été forcément toujours évident. Pas toujours bien reçu non plus, mais voilà, moi j'étais contente d'être allée au bout d'une envie que j'avais depuis à peu près toujours.
Et au final, toujours ce besoin de t'exprimer,
ouais,
que
sans
ce
doute.
Soit à travers la radio, à travers l'écriture, ou à travers ce besoin de transmettre auprès des élèves, auprès des gens,
ouais, sans doute.
D'enseigner pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019 ?
Ah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2019 ?
Qui a déjà bien commencé, mais...
Ouais, qui a déjà bien commencé. Eh ben, de continuer à vivre selon mes envies, de pas transiger, même si c'est pas toujours simple, ben je pense de rester à peu près ce que je suis. C'est hyper prétentieux, mais...
De continuer à porter ce combat...
Entre autres, ouais.
Féminisme, ouais. Et espérer qu'on n'ait plus besoin aujourd'hui de le porter et qu'il vive de lui-même au quotidien.
Et que ça existe pour les autres, surtout, voilà.
On va quand même parler de la prochaine émission de L'Ennui et au lit.
Oui.
Est-ce qu'elle est prévue ? Est-ce qu'elle est en préparation ?
Alors, en préparation, ça n'existe pas, hein, la préparation de L'Ennui et au lit.
Mais... ta chronique.
Alors non, je n'ai pas commencé. Je crois que l'enregistrement, ça va être à la soirée au fond à gauche. C'est ça, une soirée que je ne connais pas. Je n'ai jamais pu y rentrer. Donc là, ça va être la première fois. Je n'ai pas prévu ma chronique. Non, je vais réfléchir. Mais
attention, ça, tu commences à déteindre.
Oui. Non, j'ai dit que je faisais la veille. Donc la veille, le 26, je préparerai ma chronique selon l'actualité du moment. Mais bon, j'essaierai quand même toujours d'être un peu dans la provoque avec mes camarades et de les faire rire. J'aime bien les faire rire. Voilà.
Donc, et pour retrouver les podcasts sur le site de votre radio.
Oui, tout à fait.
L'enregistrement est toujours préparé. La technique est toujours.
C'est toujours Monsieur Titinovitch qui fait la technique très bien. Hein. Il arrive à faire ça sans, je crois, qu'il y ait trop de blanc ou de choses comme ça. Non, non. Puis il est patient parce que je ne sais pas comment il fait pour s'y retrouver parfois dans le brouhaha. Donc, non, non, il fait ça très bien. Ouais.
Merci, Christine.
Merci beaucoup.
Longue vie à L'Ennui et au lit, quand même.
Hein. Bien sûr. Et à Autrement dit.
Exactement. Et on termine cette émission avec un titre que tu as choisi, Angèle, balance ton quoi.
Eh oui, que j'ai découvert justement dans Autrement dit, car c'était Nathan qui avait passé cette chanson. Et alors moi, j'étais à la bourre, je ne connaissais pas Angèle et j'ai beaucoup aimé sa voix. Et puis, je trouve que les paroles sont sympas.
Et le sujet de cette chanson, c'est...
Eh ben, je pense que c'est un petit peu balance ton porc. Hein.
On écoute et on se retrouve donc pour Olé Fille le deuxième jeudi de chaque mois à 13h. Et puis pour L'Ennui et au lit, donc le 26.
Alors ça passera, je pense, le lendemain. C'est le dernier dimanche de chaque mois.
Le
donc ça passera le 28,
mois.
Sans doute, dimanche soir à 21h.
Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes. Ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire en mmh. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai bas.